نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, frères, nous poursuivons, inshallah, les quelques explications de cet verset du Coran Sharif, et plus particulièrement aujourd'hui du 18e sipara, alhamdulillah, qui comprend deux sourates, ou plutôt trois, mais inshallah, nous aborderons quelques versets de deux de ces sourates, car il y a beaucoup de choses qui sont mentionnées. D'abord, la première de ces sourates, Suratul Mu'minun, celle des croyants. Et cette sourate Al-Mu'minun, elle commence par les qualités des musulmans. Plus particulièrement, 10 qualités qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ou plutôt 10 versets qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné. Et il est dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne qui pratiquera sur ces 10 ayats, sur ces 10 versets, ira, inshallah, directement au paradis. Alors au moins pour voir la traduction de ces versets, Allah tabaraka wa ta'ala dit « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ » « Bienheureux sont certes les croyants » Et « أَفْلَحَ » ce mot « falah » il regroupe la réussite mondaine, religieuse, totale et complète que quelqu'un il peut obtenir. « الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ » Les croyants, ce sont ceux qui sont humbles dans la salat. « خَاشِعُونَ » ce mot en lui-même, on peut donner plusieurs explications. On va prendre celle de Mme Ta'anoui, rahmatullahi alayhi, que Hazrat Mufti Shafi Sahib, rahmatullahi alayhi, a repris dans son Ma'arif al-Qur'an, à la page 295, le volume 6, qui dit en ce sens que cela veut dire la tranquillité qui est présente dans le cœur. C'est-à-dire que dans votre cœur, vous ne pensez à personne d'autre à part Allah tabaraka wa ta'ala, volontairement. Vous ne pensez à personne d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et deuxièmement, cette tranquillité, elle doit également se retrouver à travers les membres. Et troisièmement, donc à travers les membres, c'est-à-dire de ne pas effectuer des gestes qui sont inutiles et qui sont futiles dans la salat. Donc, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, ça on va dire, c'est un peu le résumé de tout cela. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, et ceux qui se détournent des futilités. Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi explique que le plus haut degré du lard ou des futilités, ce sont les péchés. Et on peut aller de manière dégressive, on va dire, les futilités, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas de bienfait particulier. Ma la fa'idata fihi min qawlin wa la fi'lin. Que ce soit les paroles ou que ce soit les actions. D'ailleurs, à ce propos, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans un hadith sharif mubarak min husni islam il mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Parmi la beauté husni islam il mar'i de l'islam d'un homme, c'est qu'il délaisse tout ce qui est inutile, et cela va jusqu'aux pensées. Et le but du jeûne en lui-même, c'est également d'atteindre ce degré, c'est-à-dire de ne pas parler inutilement, de ne pas penser également de mauvaises choses. Bien évidemment, il peut apparaître parfois, comme dans la salat, qu'involontairement des pensées arrivent, mais à ce moment, on ne doit pas donner et faire donc attention à cela. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, et ces gens qui effectuent leur purification. Alors vous avez vu qu'il y a le mot de la zakat. Mais ici, Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi, il observe qu'en général, lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala parle de la zakat, c'est-à-dire de payer la zakat, Allah tabarak wa ta'ala utilise le mot ita ou zakat, wa aqimu salat wa atu zakat. Et ici, Allah ta'ala nous dit وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, ceux qui font leur purification, car le sens à l'origine du mot zakat, c'est de se purifier. Car lorsqu'on donne la zakat, alors on purifie, c'est bien. Et Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi nous dit que c'est la purification intérieure, la recherche et l'augmentation dans la spiritualité. Donc, وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, les gens qui protègent leur partie privée, excepté avec leurs épouses et ceux qu'ils possèdent, c'est-à-dire leurs esclaves. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, et en dehors de ces deux exceptions-là, alors on tombera dans les péchés. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, et ces gens qui rendent et qui font extrêmement attention aux amanas, Et amana, on peut traduire par un dépôt. Le Mufti Shafi Sahib, rahmatullah alayhi, il explique que c'est un sens extrêmement large, c'est-à-dire tout ce qui est sous notre responsabilité, que ce soit dans le dîn, que ce soit à travers notre famille, à travers les gens, à travers nos relations, alors de veiller grandement à respecter nos engagements, wa ahdihim ra'un, également nos promesses. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Et ces gens, Allah Ta'ala dit encore une fois, هم على صلواتهم يحافظون, qui prennent extrêmement soin, qui protègent leur prière. Et puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de ahkam, beaucoup de règlements à mentionner, on a juste voulu dire ces quelques versets qu'on peut et qu'on doit, inshallah, se remémorer, regarder la traduction et appliquer dans ma vie, juste pour montrer un point que Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi il a dit, regardez, Allah Ta'ala a mentionné plusieurs qualités, mais la première des qualités qu'Allah a mentionné, c'est celle de la salah, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Et la dernière des qualités qu'Allah tabaraka wa ta'ala mentionne, c'est également celle de la salat. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Même si vous allez regarder dans d'autres surahs, comme on avait dit précédemment, nous pouvons dénombrer le nombre de fois où Allah tabaraka wa ta'ala parle de la salat dans le Coran Sharif, le nombre de fois où Allah ta'ala insiste et met beaucoup d'emphase sur ce grand acte d'adoration. D'ailleurs, parmi les piliers de l'islam, celui qui revient le plus souvent et celui qui nous demande le plus d'attention, c'est la salat. Car vous savez que le hajj n'est faraz obligatoire pour les personnes qui remplissent les conditions une fois dans la vie. Le mois de Ramadan, c'est une fois dans l'année. La zakat également, c'est une fois dans l'année. Et c'est surtout la salat. Donc Mufti Shafi Sahib, rahmatullah alayhi, il dit peut-être, parce qu'Allah Ta'ala veut nous dire que si vous allez prendre soin de votre salat, comme ça a été brièvement expliqué la dernière fois, en respectant les règles, les wajibat, les sunnat, les mustahabbat, la manière de regarder, la manière de se comporter, de ne pas, comme on a dit, faire de gestes inutiles. Parfois, on a également certaines mauvaises habitudes. C'est un tic, on va dire. On a l'habitude parfois peut-être de jouer dans sa barbe, ou alors on a l'habitude de remettre en place son kurta, ou alors on a certaines autres habitudes. Alors tout cela, plus inshallah notre concentration elle va augmenter, et inshallah plus Allah tabaraka wa ta'ala mettra de l'effet dans notre salat. Donc voilà un peu pour ces qualités là. Maintenant on passe à la partie fiqh en elle-même, on va dire, et dans ce juz là, et surtout dans cette surah An-Nur, le message principal qu'Allah tabaraka wa ta'ala il mentionne, il y a bien sûr le verset qui est assez connu, malheureusement on ne pourra pas y venir, peut-être inshallah la prochaine fois, Allahu nuru samawati wal ard. Mais le message qu'Allah tabaraka wa ta'ala il véhicule et l'objectif principal recherché de cette sourate, c'est quoi? C'est la isma et c'est la pudeur. La pudeur, la bonne moralité et la protection contre tout ce qui est tout ce qui fait partie de l'indécence. Et par rapport à cela, inshallah, on va essayer de voir trois choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala il mentionne. Premièrement, ce sont les règles de ce qu'on appelle istidhan, c'est-à-dire lorsque vous vous rendez chez quelqu'un, alors comment est-ce qu'on doit arriver chez cette personne et qu'est-ce qu'on doit faire? Allah ta'ala il nous dit: ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Et pour montrer l'importance de cela, il est dit que Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il était, on va dire, assez triste et peut-être même un peu en colère par rapport à ça. Il disait qu'il y a trois versets dans le Coran Sharif que les gens, ils ont totalement délaissés à son époque, et aujourd'hui malheureusement c'est encore plus vrai. Il dit premièrement, ce sont ces règles de isti'adhan, c'est-à-dire lorsqu'on arrive chez quelqu'un, on doit donc frapper à la porte, on doit faire attention à ce qu'on ne dérange pas les gens, respecter l'intimité des gens, etc. On y viendra, inshallah. Donc il dit ça, c'est un verset que les gens ont délaissé. Deuxièmement, celui du miraf, celui de l'héritage. Et troisièmement, c'est inna akramakum indallahi atqakum, que la personne qui a la plus de valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est celui qui a le plus de piété. Et il dit aujourd'hui pour nous, ceux qui ont le plus d'argent, ce sont eux qui ont le plus de valeur. Ça c'est Ibn Abbas radiyallahu anhuma, un sahaba, mufassir al-Qur'an. À son époque, il disait ça. Et malheureusement, bien évidemment, peut-être que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Donc ces règles de isti'adhan, Allah tabaraka wa ta'ala dit: ya ayyuhal ladhina amanu, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. N'entrez pas dans une autre maison autre que la vôtre avant d'avoir au préalable demandé l'autorisation et avant d'avoir fait le salam. Alors Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi, il a expliqué les différences par rapport à tout cela, mais on va aller inshallah directement à l'objectif. Quelle est la méthode et pourquoi est-ce qu'Allah tabarak wa ta'ala il a mis en place ces règlements? Le but, comme on a dit, le but primordial, c'est quoi? C'est de préserver l'intimité des gens et d'empêcher qu'on tombe dans l'indécence. Alors comment? Parce qu'il se peut que lorsque vous alliez chez des gens, plus particulièrement dans le temps des Sahaba, il n'y avait pas forcément de porte comme aujourd'hui. Ce n'était pas aussi protégé qu'aujourd'hui. C'est pour ça Allah tabarak wa ta'ala, il a mis une grande, grande précaution et il a dit, il ne faudrait pas que vous arriviez à un moment où les gens ils sont dans une tenue qui n'est pas correcte. Ou alors ils sont en train de faire une action qu'ils ne voudraient pas que les gens sachent. Ou alors ils peuvent également être occupés. Et c'est pour ça qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a dit au préalable, alors demandez l'autorisation. Demander l'autorisation, ça veut dire quoi? Il est dit que les sahaba, radiyallahu anhum, lorsqu'ils allaient voir le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors ils frappaient à la porte. Mais comment également ils frappaient à la porte? Ça aussi, l'islam nous a montré de ne pas frapper pour frapper au sens du terme. Mais avec le bout des doigts. C'est-à-dire pour ne pas déranger le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour faire que le Rasoulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il l'entend, mais également pour ne pas, on va dire, même apeurer parfois la personne, avec le bout des doigts, de frapper et de cogner à la porte comme ça. Ça, c'est une première chose. Il nous dit de demander une fois, si on voit qu'il n'y a pas de réponse, alors de recommencer. Si on, deuxième fois encore, il n'y a pas de réponse, alors une troisième fois également, de refaire selon ce même principe. Et si au bout de trois fois, on voit qu'il n'y a pas de réponse, وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ رَجِعُوا فَرَجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ. Si vous voyez qu'il n'y a pas de réponse, alors peut-être que les gens, ils sont en train de prendre leur bain, peut-être qu'ils sont occupés, peut-être qu'ils ne peuvent pas sortir, peut-être qu'ils ne sont pas en tenue vestimentaire qui sont corrects. Allah dit, il est meilleur pour vous de vous en aller. Ne prenez pas ça mal, au contraire, هُوَ أَزْكَى لَكُمْ. Ça c'est encore plus pur et c'est encore mieux pour vous. Donc de demander de frapper, ensuite de faire le salam, de dire assalamu alaikum. Et dans les hadiths mubarakah, il est dit également de mentionner son nom. C'est-à-dire, une fois quelqu'un il est venu vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, il a frappé à la porte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé, c'est qui? Il a dit, c'est moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est moi, c'est-à-dire c'est qui? Tout le monde, ça peut être c'est moi, mais dites votre nom. À tel point que les mufassirs alayhim ar-rahma, ils nous disent, que même quand vous rentrez chez vous et que vous savez qu'il n'y a que votre épouse, alors bien sûr, ils nous disent que ce n'est pas obligatoire dans ce cas, mais il est toujours préférable de faire un signe ou alors de faire un bruit. Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu anhu, il disait que lorsqu'il arrivait, il éternuait, on va dire, toussait un peu pour montrer à son épouse qu'il est en train d'arriver. Cela ne nous empêche pas, bien évidemment, de frapper à la porte et de faire le salam. Donc ces règles d'istizan, ça c'est quelque chose d'important. Allah Ta'ala, il a mentionné dans le Coran Sharif, et surtout comme on a dit, par rapport à la pudeur, il ne faudrait pas que notre œil il tombe sur une femme étrangère ou alors dans des situations un peu plus délicates. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala, il a mis en place cela dans le Coran Sharif. Et comme Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il a dit, malheureusement aujourd'hui, les Européens, les Occidentaux, eux, ils se sont appropriés cela. Et nous, musulmans, nous avons délaissé ces pratiques et ces enseignements du Coran. Mufti Shafi Sahib, rahmatullah alayhi, il va encore plus loin. Il dit que la manière de demander l'autorisation d'entrer, elle peut varier selon les pays, selon les régions. Il dit aujourd'hui, vous avez les sonnettes. Ça aussi, ça entre dans ce cadre-là. Alors sonnez et attendez la réponse. Même il nous dit que si par exemple, vous allez dans un endroit, dans une madrasa ou bien dans un bureau, où il y a un service à part, on va dire, où il y a quelqu'un, il y a son bureau particulier, alors n'entrez pas de manière, on va dire, brusque, mais toujours frapper à la porte et toujours essayer de demander pourquoi innama ju'ila li ajli al-basar, afin que l'œil il soit protégé par rapport à cela. Donc Allah tabarak wa ta'ala, inshallah, il nous fasse comprendre par rapport à ça. Maintenant, la deuxième partie qu'on va passer, ben justement, c'est à propos de l'œil. Allah tabarak wa ta'ala, dans un verset du Coran Sharif, il nous dit qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dit aux croyants les mu'minina yaghuddu absarahum, qu'ils baissent leur regard. Et baissent leur regard, Mufti Shafi Sahib rahmatullah yani, il a développé, on va dire, les limites du regard, c'est-à-dire à quel moment il sera permis, à quel moment il ne sera pas permis. Et là vous avez deux tendances. Vous avez un certain groupe de ulama qui de manière générale ils n'ont pas autorisé le regard vers une femme étrangère. Pourquoi? À cause de ce risque qu'il y a de tomber dans la fitna Et surtout parce que Mufti Shafi Sahib Rahmatullahi Alayhi nous dit que cet œil et ce regard, c'est le premier pas pour arriver, pour atteindre l'adultère. Ça, c'est la protection, on va dire, qu'Allah Tabarak wa Ta'ala, il a dit. Et Mufti Shafi Sahib Rahmatullahi Alayhi, il mentionne un hadith sharif d'Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu, rapporté par l'imam Tabarani Rahimahullahu Ta'ala, qui dit en ce sens: An-nazru sahmun min siham iblis masmumun man tarakaha makhafati abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Ou comme Allah Tabarak wa Ta'ala, Allah dit que le regard, c'est une flèche parmi les flèches de Iblis, une flèche empoisonnée. Et celui qui va délaisser, celui qui va protéger son regard, Allah Ta'ala en échange lui donnera la douceur, lui donnera la foi, et il retrouvera la douceur de cette foi. Yajidu halawatahu fi qalbihi. Hadshah Muhammad Hakim Akhtar Sahab Dan Barakatuhum, il dit que Yajidu, le mot, ça veut dire quoi? Yajidu, qu'il trouve la douceur de cette foi-là dans son cœur. Donc par rapport à ce regard, Allah Tabarak wa Ta'ala, il dit aussi bien aux hommes, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Et également pour les femmes, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. Jusqu'à la fin, on y viendra inshallah. Donc pour les femmes également, de protéger le regard. Et comme on a dit, c'était en la main mutlaqan, c'est-à-dire saddan lilbab, ils ont dit que le regard, pour les hommes en tout cas, on évite. Et pour les femmes, ils ont lié pour certains à certaines conditions. Si par exemple il y a risque de fitna, il y a une petite peur de fitna que ça va entraîner des mauvaises choses, des mauvaises pensées, etc. Alors tous ils sont d'accord sur le fait que cela est totalement, bien évidemment, interdit. Et d'autres ils ont fait cette division, ils ont dit que si par exemple il n'y a pas de risque de fitna, c'est sans désir pour les femmes, alors il y a possibilité. Et ils se basent pour cela sur un hadith sharif de Hadith Aisha radiallahu ta'anha, qui était donc avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait des gens, des jeunes d'Abyssinie qui étaient en train de jouer le jouet de Eid, etc., etc. Donc ils s'appuient là-dessus. Les autres sahaba, les autres fuqaha, les autres juristes, ils disent que non, mutlaqan, c'est-à-dire de manière générale, même pour les femmes, elles n'ont pas le droit de regarder un homme étranger, même s'il n'y a pas risque de désir. Pourquoi? Parce qu'une fois, Hazrat Umm Salama radiallahu ta'ala anha, l'une des épouses de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle était en présence du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et un sahabi qui était aveugle, en l'occurrence Ibn Umm Maktoum radiallahu ta'ala anhu, il est venu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là, Umm Salama radiallahu ta'ala anha était là, et il leur a demandé, c'est-à-dire à ses épouses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de quitter la pièce. Et là elles ont répondu: mais ya Rasulallah, il est aveugle. Ce sahaba, il est aveugle, donc il ne peut pas nous voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oui, il est aveugle, mais vous, vous ne l'êtes pas. Donc même par rapport à cela, il faut prendre ses précautions. Et troisième chose, ce sont les ahkam, on va dire, du hijab et du parda plus particulièrement. Dans ce verset du Coran Sharif là, Allah tabarak wa ta'ala, il parle de ça et il nous dit وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Alors c'est à partir de ce verset là et à partir du verset de la sourate Al-Ahzab: Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dis à tes épouses, aux femmes des musulmans, etc., de couvrir et de rabattre sur eux le grand voile. Alors à travers ces versets là Allah tabarak wa ta'ala, il a, on va dire, évoqué l'ordre du hijab et l'ordre plus particulièrement du parda. Maintenant, dans ce ayat-là, il y a deux tafsirs. Il y a celui d'Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu, et il y a celui d'Abdullah bin Abbas radiallahu anhu, tous deux grands sahaba radiallahu anhu. Le verset en lui-même, il nous dit: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Ne montrez pas qu'elles ne montrent pas leur parure. Et là, les commentateurs du Coran Sharif, ils nous disent: les parures, la beauté, ça veut dire l'endroit où on met sa beauté, c'est-à-dire le visage plus particulièrement et les mains. Donc ces endroits-là, le visage et les mains, Allah Ta'ala dit: ne montrez pas ces endroits-là, excepté ce qui apparaît. Illa ma zahara minha. Maintenant, qu'est-ce que ce mot-là, ce terme, illa ma zahara minha, qu'est-ce que ça veut dire? Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu, il nous dit que ça veut dire le vêtement, le burqa, on va dire plus particulièrement le vêtement, la cape si vous voulez, que la femme, elle va mettre quand elle va sortir de sa maison par nécessité. Ce qui veut dire que pour lui, le visage et les mains également doivent être couverts. Selon le tafsir d'Abdullah bin Mas'ud, radiallahu anhu, et prenons note, s'il vous plaît, parce que à un moment, on va dire, et peut-être même encore parfois, injustement, on dit et on apprend que ce hukm de hijab, ce n'est pas, na'ouzou billah, partie de l'islam, mais c'est une coutume qui a été inventée, on va dire, après. Alors qu'on voit à travers ce tafsir de ayat du Coran Sharif, un sahaba, radiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu anhu, il nous dit que ça veut dire uniquement le vêtement externe qu'on pourra voir parce que la femme est sortie de sa maison par nécessité. Abdullah bin Abbas, radiyallahu anhu, lui, il est d'avis, au contraire, que non, illa ma zahara minha, qu'elle ne montre pas leur parure, leur beauté, ça veut dire tout leur corps, excepté le visage et les mains. Ça veut dire que pour Abdullah bin Abbas, radiyallahu anhu, les femmes ont le droit de découvrir le visage et ont le droit de découvrir les mains. Donc nous sommes en présence de deux tafasir. Maintenant, les mufassirin alayhim rahma et les fuqaha, les juristes, ils se sont basés là-dessus et ils ont fait le madhhab. Alors Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Malik, Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous trouvez certaines personnes qui sont d'avis que de couvrir le visage, c'est quelque chose d'obligatoire, ça veut dire wajib, en pratique obligatoire. Juste la différence avec le fard, on avait dit, c'est au niveau de la preuve, au niveau du dalil. Et d'autres qui disent que c'est quelque chose de conseillé. Et d'autres qui vont vous dire que non, ben comme le tafsir, il y a le commentaire de Abdullah bin Abbas, radiyallahu anhumah, qui autorise à la femme d'avoir le visage et les mains découverts, c'est pour ça qu'ils vont pencher, on va dire, sur cet avis-là. Mais, comme Mufti Shafi Sahib, rahmatullah alayhi, il le dit très justement, à aucun moment ce ayat n'autorise à l'homme de regarder le visage de la femme. À aucun moment ce ayat n'autorise à l'homme de regarder le visage de la femme. Bien au contraire, à tel point qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit, pour cette protection, on va dire, de la femme, que même les bijoux qui font du bruit, les bijoux qui font du bruit, alors là également Allah tabarak wa ta'ala a dit que les femmes s'abstiennent de porter de tels bijoux qui attirent l'attention, on va dire, sur elles. Donc voilà un peu, on va dire, pour le parda et pour le hijab. Maintenant on passe à la troisième partie qui est le début de la sourate Nour. Allah tabarak wa ta'ala a dit suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinatin la'allakum tadhakkarun. Et ça, Allah tabarak wa ta'ala, concrètement, comme nous l'avons dit, il parle de la peine de l'adultère. Alors vous savez, c'est quelque chose qui existe dans l'islam, et les mots du Coran Sharif en eux-mêmes sont les suivants: az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumā mi'at al-jalda. Avant d'arriver à cela, on va juste faire quelques précisions, rappeler quelques précisions. Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayh, il nous dit que dans la shari'at, et on avait mentionné ça précédemment, le had, c'est-à-dire la peine qui a été instituée directement par Allah tabarak wa ta'ala, ils sont au nombre de 4. C'est-à-dire il y a 4 crimes, si vous voulez, 4 choses, 4 péchés, qui sont tels qu'Allah ta'ala il a fixé une peine. Premièrement, lorsque quelqu'un vole, on avait vu les conditions la dernière fois, faqta'u aydiyahuma, si les conditions sont respectées et que nous sommes dans un pays où la loi musulmane est appliquée, alors la main de cette personne doit être coupée. Deuxièmement, kisipak daman awrat par tuhmat rakna. Quelqu'un, il a accusé injustement une femme d'avoir accompli l'adultère. Là également, il y a la peine de la part de la shari'at, il doit recevoir 80 coups de fouet. Et troisièmement, quelqu'un qui a bu de l'alcool. Et cinquièmement, zina, c'est-à-dire de commettre l'adultère. Maintenant, cette peine de l'adultère, elle est très sévère. Et Mufti Shafi Sahib rahmatullah, il nous dit que parmi toutes les peines qui existent dans la charia, c'est celle qui est la plus sévère. Pourquoi? Parce que Mufti Shafi Sahib rahmatullah nous dit que l'équilibre et l'organisation de la société, elle repose là-dessus. Et il nous dit que la majorité des faits divers, elles ont 2 causes principales. Premièrement, ce sont les problèmes de couple avec les femmes, c'est-à-dire quelqu'un, par exemple, dans notre ville, dans notre vie également, on voit ça. Lorsqu'il y a un fait divers, lorsqu'il y a un meurtre, etc., parce que telle personne a quitté telle personne, donc il a tué, il a assassiné, etc., etc., etc. Il dit ça, c'est une des grandes causes. Et deuxièmement, c'est à cause de l'argent. Une deuxième précision qu'on peut mentionner, c'est que quoi? C'est que cette peine-là, elle est très sévère. Mais à chaque fois que dans la shari'at, Allah tabarak wa ta'ala, il a mis une peine qui est sévère, les conditions d'application de cette peine également, elles sont extrêmement strictes. Et vous voyez que pour la peine du zina, alors pour quelqu'un qui n'est pas marié, quelqu'un qui n'est pas marié et qu'il a été prouvé ou qui a avoué qu'il a commis l'adultère, cette personne doit recevoir fajlidu kulla wahidin minhumā mi'at al-jalda, elle doit recevoir 100 coups de fouet. Et la personne qui est mariée et qui a été prouvée, ou alors qui a avoué qu'elle a commis l'adultère dans un pays musulman, bien évidemment, alors cette personne, elle doit être lapidée. D'ailleurs, je n'ai pas mis le document ici, mais même dans les autres textes, dans le Lévitique, si je me trompe, il y a également des références par rapport à ça. Bref, on était en train de dire quoi ? Que plus la peine, elle est sévère, plus les conditions d'application de cette peine, elles sont également extrêmement strictes. Et nous allons le voir pour le zina, c'est-à-dire pour l'adultère, de manière générale, lorsqu'il s'agit des témoignages, c'est-à-dire quelqu'un, il va nous, par exemple, pour un mariage. Vous savez que lorsqu'il y a un mariage, on dit qu'en général, il faut combien de témoins ? Deux témoins. Il faut en général deux témoins. D'accord ? Pour ce qui est du zina, première précaution qu'Allah tabarak wa ta'ala l'a dit, c'est-à-dire pour prouver que quelqu'un il a commis l'adultère et que la peine puisse être appliquée, ce n'est pas deux, mais c'est quatre témoins. Et ces quatre témoins, ils doivent être tels qu'ils ont vu l'action. C'est-à-dire, et même dans les kitab de fiqh, c'est vraiment clairement expliqué, ils ont vu la pénétration, ce qui est pratiquement impossible. Donc Allah tabarak wa ta'ala, la première précaution qu'il a pris, c'est qu'au lieu d'avoir deux témoins, il faut quatre témoins. Deuxième précaution qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a dit, s'il y a le moindre doute, s'il n'y a pas quatre, il y a trois par exemple, ou alors il y en a deux qui sont sûrs et deux qui ne sont pas trop sûrs, on ne peut pas appliquer la peine. Ça c'est deuxième précaution. Et troisième précaution qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a pris, c'est quoi ? C'est que s'il s'avère qu'un de ses témoins a menti, alors lui, comme on a dit, puisqu'il a accusé injustement quelqu'un d'autre, lui, il recevra 80 coups de fouet. Ça veut dire qu'avant même d'aller témoigner, il sait qu'il est obligé de dire la vérité, il ne peut pas jouer avec cela, si vous voulez. Donc Allah, il a dit que si une personne, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumā mi'ata jaldah, la personne qui n'est pas mariée et qui a commis l'adultère, soit parce qu'il y a quatre témoins qui ont vu la scène et qui ne comportent aucun doute, alors dans ce cas-là, on appliquera la peine. Et encore une fois, on a dit précédemment, al-hududu tandari'u bish-shubuhat. C'est-à-dire, même s'il y a une petite suspicion, peut-être que, alors immédiatement, cette peine ne sera pas appliquée. Donc ça, c'est une chose qu'on a vue. Deuxième chose qu'on peut mentionner par rapport à cela, c'est quoi ? C'est que dans le Coran Sharif, à travers les versets, on a parlé de lapidation, mais dans le Coran Sharif en lui-même, le Coran que nous avons aujourd'hui, ce verset, il ne se retrouve pas. Et puisqu'on va dire ce verset, il ne retrouve pas, certains, ils pourraient, on va dire, trouver une porte. Et malheureusement, ça, c'est un fitna également, c'est une épreuve de cette umma qui est déjà arrivée, nous-mêmes, nous avons eu affaire à certaines personnes qui réfutent l'existence de cette peine. C'est-à-dire qu'ils disent que non, la lapidation, na'ouzoubillah, ça n'existe pas et c'est quelque chose qui n'est pas possible. Regardez ce que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a dit. وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأسس على منبر جبر فضل الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم. Parmi ce qu'Allah tabarak wa ta'ala il a révélé, c'est justement le verset de la lapidation. قرأناها, nous l'avons lu. ووعيناها, وعقلناها, et nous avons mémorisé, compris. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى. Et il a dit que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est la plus grande des preuves, il y a eu deux cas qui sont mentionnés dans les kitab, dans le temps de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, un sahaba, et ça prouve leur foi, lui-même il est venu avouer à Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ya Rasulullah, voilà j'ai commis ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est détourné de lui, il a dit, non, peut-être que tu l'as juste embrassé, peut-être que non, tu n'as pas fait ça. Il s'est détourné de lui. Deuxième fois, il est venu. C'était Hazrat Ma'iz Aslami, radiallahu anhu. Il est venu, Rasulullah, il s'est détourné. Il a dit, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Troisième fois, quatrième fois, il est venu encore. Il a dit, voilà, ya Rasulullah, applique la peine sur moi parce que voilà ce que j'ai fait. Donc, pour Hazrat Ma'iz Aslami, radiallahu anhu, et un autre sahaba, radiallahu anhu, cette peine de la lapidation, elle a été appliquée. Et encore une fois, comme Allah, tabarak wa ta'ala, dit, justement, pour mettre fin à ce phénomène qui est devenu extrêmement commun et ce phénomène pour lequel on a perdu de l'importance. Subhanallah. Nous-mêmes, parfois, on dit, mais quel hadith, quelle parole on peut trouver pour montrer le dégoût par rapport à cet acte. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a zina, comme nous l'avons dit, ce sont des familles qui sont détruites, ce sont des couples entiers qui sont détruits et de fil en aiguille, de mouvement, on va dire, progressif, c'est toute la société qui perd. Il n'y a plus de sabit ou de nasab, c'est-à-dire des enfants qui naissent sans avoir véritablement de parents. Il n'y a plus l'objectif même du nikah, la protection, le iffat et le fait d'avoir des enfants pieux. Tout cela, ce sont beaucoup de mauvaises choses qui sont liées par rapport à cela. Donc, Omar radiallahu anhu, il a dit que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait et que après nous également, nous avons fait. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Fa'akhsha an tala bin nasi zamanun an yaqula qa'il. J'ai peur, je crains que avec l'époque qui va passer, les gens ils vont dire ma najidu rajma fi kitabillah. Il n'y a pas la lapidation, ça n'existe pas dans le kitab d'Allah. فَيُضِلُّ بِتَرْكِهِ فَرِيضَةً أَنْزَلَهَا اللَّهُ. Et là, ils vont être déviés parce qu'ils vont délaisser une obligation qu'Allah tabarakata il a révélée. وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ. C'est-à-dire, Omar radiallahu anhu, il dit que ça, c'est quelque chose qui fait partie de la charia. C'est une obligation, bien sûr avec les conditions, mais là, j'insiste sur ce fait. C'est-à-dire que nous-mêmes, en tant que musulmans, et parfois, il faut faire très attention à ça, parce que comme Mufti Shafi Sahib, rahmatullah, l'a dit, certes, aujourd'hui, ce n'est pas, on va dire, dans le mushaf du Coran Sharif, pour plusieurs raisons. Nous avons vu Omar radiallahu anhu qui a dit que lui-même, si vraiment ça n'était pas peur de dire des gens, alors j'aurais inscrit dans le commentaire, si vous voulez, dans le commentaire du Coran Sharif, j'aurais inscrit ce ayat-là. J'aurais inscrit ce ayat du Coran Sharif. Et même si on n'accepte pas de ayat, alors à travers le ta'amul, c'est-à-dire l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'action des sahaba, et ça c'est une grande preuve, un grand dalil de la ummah, de la même manière que pour les 20 rakat de tarawih qui sont prouvés depuis Hazrat Omar radiallahu anhu jusqu'à l'an, on va dire, 1250 de l'Égypte, à aucun moment vous n'allez trouver une personne qui a fait moins de 20 rakat de tarawih. Oui, vous allez trouver des gens qui ont fait plus. Ils ont fait 36, on n'a pas le courage. Mais moins que ça, non. Et les savants, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Que la preuve la plus grande, pas la plus grande preuve, mais une des preuves, c'est ta'amul et ummat. C'est-à-dire, quelle a été la pratique de la ummat. Donc, de la même manière, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a pratiqué là-dessus, lorsque les conditions, lorsque cette personne est venue avouer, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas, mais il l'a fait parce que c'était la loi d'Allah, tabarak wa ta'ala. Et Allah, il dit, afin que justement ce dégoût pour cette adultère et cette fornication, elle entre dans vos cœurs, Allah dit, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Qu'une partie des musulmans qu'ils aillent assister et qu'ils voient que si tu vas tomber dans cet acte, alors voilà ce qui va t'arriver, ce qui est beaucoup plus grave. Et une autre explication qu'on peut donner, c'est quoi ? C'est dans ces règles qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a mis en place, c'est le côté pratique. Nous-mêmes, demandons-nous qu'Allah ta'ala il nous préserve. Demain, et un sahaba, il est venu vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ya Rasulallah, est-ce que tu me donnes l'autorisation de faire l'adultère ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que merveilleux professeur, il lui a dit, est-ce que tu aimerais que demain, quelqu'un, il commette l'adultère avec ta sœur? Il dit, ben non. Est-ce que tu aimerais que commette l'adultère avec ta fille? Il a dit, ben non. Il dit, ben la personne avec qui tu vas commettre l'adultère, c'est également la fille de quelqu'un et la sœur de quelqu'un. Donc voilà, il y a un article qu'on avait affiché il y a quelque temps de cela, dans lequel justement un certain professeur, il avait posé des questions aux non-musulmans. Et Mufti Shafi Sahib Rahmatullah, il nous dit qu'en général, lorsque ces cas de viol et d'adultère, etc. arrivent, parfois les gens, ils entrent dans une telle josh, on va dire, dans une telle pression, une telle envie qu'ils ne peuvent pas se contrôler et parfois ils vont jusqu'à tuer malheureusement des gens, etc., etc. Donc Allah Ta'ala il a mis ça et c'est quelque chose qui existe, bien sûr qui sont liés à des conditions qui sont très précises et qui sont très strictes, mais surtout Mufti Shafi Sahib Rahmatullah il a dit que dans le Coran Sharif on ne le retrouve pas, mais sunnati mutawatira c'est qat'iyu thubut, c'est-à-dire que c'est prouvé comme pour le Coran, si vous voulez. C'est prouvé comme pour le Coran, donc c'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit. Qu'Allah tabarak wa ta'ala, inshallah, il nous accorde la compréhension de ces quelques paroles. On n'a pas plus de temps, il y avait encore beaucoup de choses. Il y a encore la masjid, Allah tabarak wa ta'ala. Il dit un moment par rapport aux vertus de la masjid, fi buyutin adhina Allahu an turfa'a. Les maisons d'Allah tabarak wa ta'ala, an turfa'a, Allah ta'ala, il a ordonné, adhina, on va prendre le sens de amara, c'est-à-dire il a ordonné qu'on respecte la masjid. Et Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi, il a mentionné 15 adabs, 15 choses, c'est-à-dire de faire le salam quand on entre dans la masjid, même s'il n'y a personne, de dire assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, de ne pas faire de bruit lorsqu'on entre dans la masjid, de faire tahiyatul masjid, de ne pas faire de la vente dans la masjid, de ne pas faire l'annonce qu'on a perdu quelque chose, etc. etc. Il en a mentionné 15 qui a repris de Mu'allama Qurtubi rahimahullah ta'ala. Et Allah ta'ala il dit également ici an turfa'a wa yudhkara fi hasmuhu, que le nom d'Allah soit pris et soit rappelé dans la masjid. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, on évoque les louanges d'Allah tabarak wa ta'ala bil ghudwi wal asal, c'est-à-dire à chaque moment, ou alors si on prend le sens plus littéral, le matin et le soir. Donc Allah tabarak wa ta'ala il nous permet inshallah d'acquérir ces quelques qualités. Pour terminer également quelques hadiths mubarakah sur les vertus de la masjid, il est dit que la personne qui va faire le wuzu chez lui et qui va venir à la masjid, alors il aura la récompense de la personne qui est en état de ihram et qui va accomplir le hajj. Et dans un autre hadith sharif, on avait dit la dernière fois de Mousnad al-Bazzar, celui qu'on vient de mentionner c'est dans Abu Daoud sharif, et celui qu'on avait dit la dernière fois de Mousnad al-Bazzar, en ce sens, celui qui vient pour apprendre ou alors pour enseigner la science religieuse, Allah Ta'ala lui donnera la récompense d'un hajj, Inch'Allah. Allah Tabarak wa Ta'ala, il fasse qu'à travers ces quelques éléments que nous avons vus, Inch'Allah, surtout le message de la sourate Nour, la protection du regard, la protection même des paroles, des pensées, la protection contre l'adultère, le fait d'avoir cette qualité de iffat. Et il faut absolument que je mentionne ça. Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Ali l'a dit, parce qu'Allah tabarak wa ta'ala il parle du récit de Hadith Aisha radiallahu anha, ce qu'on appelle le waqi'a ifk. Il a dit que regardez, Allah ta'ala à un moment il dit inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adhabun alim, que les gens qui aiment que le fahisha, ça veut dire l'immoralité et l'indécence, elles se répandent dans le monde, on va dire. Allah ta'ala il a dit pour eux il y a un châtiment sévère. Ça veut dire que certes, Allah tabarak wa ta'ala, il a dit d'un côté, lorsqu'il est prouvé, avec toutes les conditions qui sont très strictes comme on a vu, pour l'adultère, alors il faut que les gens y voient cette peine pour qu'ils s'abstiennent et qu'ils disent que non, on ne peut pas faire ça par rapport à cette peur. Mais tant qu'il n'y a pas de preuve, alors n'allez pas, comme on a vu, si quelqu'un il accuse quelqu'un sans raison valable, lui aussi il aura sa peine, n'allez pas répandre et propager ce genre d'histoire. Et il nous dit que malheureusement aujourd'hui, dans les médias, dans les journaux, l'internet, les radios, etc., c'est vraiment une abondance de ce genre de récits, de faits divers, etc. Et il nous dit, puisqu'il y a cette abondance-là, aujourd'hui, notre peur et notre dégoût pour l'adultère, il a beaucoup diminué. Et il dit que, regardez, je ne sais pas si c'est... Non, ce n'est pas ici. Dommage que je n'en trouve plus le ibarat, la parole. Il dit qu'aujourd'hui, ça c'est une des grandes causes pour qu'aujourd'hui, notre pudeur, elle est presque disparue. Elle a totalement diminué. Allah tabarak wa ta'ala, il nous protège. Et on demande droit avec Allah tabarak wa ta'ala de nous faire parmi ces gens-là. Allahumma inni as'alakal iffata. Nasihata wal iffa. Ça veut dire pakdamani. La pureté du cœur, la pureté des yeux, la pureté des oreilles, la pureté de l'esprit. Et Allah tabarak wa ta'ala, ça c'est le message également quand on parle de la'allakum tattaqun du mois de Ramadan. Allah nous pardonne, inshallah. Comme on a dit, il y avait encore beaucoup de choses parmi les ayats, le ayat al-Nur, on a dit, on n'a pas pu développer. Et même un autre ayat également qui est extrêmement conseillé de réciter, c'est afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allah malikul haqq, jusqu'à la fin de ce ayat là pour la protection. Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu de Hayat al-Sahaba, à un moment il dit que même si quelqu'un il est atteint par un djinn, etc., alors lisez cela et soufflez dans l'oreille de la personne. Allama Shabir Osmani rahimahullah ta'ala, il a dit de lire cela en abondance, il y aura beaucoup de bénédictions, beaucoup de bienfaits. Allah nous pardonne, nous accepte, alhamdulillah rabbil alamin, rabbana taqabbal minna innaka